Devant vous, la Porte Neuve, qui a toujours porté ce nom, est une création de la Renaissance qui est venue remplacer l'ancienne porte du XVe siècle. Les textes du XVIe et XVIIe siècle mentionnent bien une Porte Neuve, qui est donc contemporaine au castrum ou château féodal. De par sa situation exceptionnelle, elle servait de poste de garde avancé. Elle a été incluse dans les courtines ou petits remparts élevés lors de la dernière extension du village au XVe siècle. L'arc extérieur, en anse de panier, est construit avec des claveaux de forte portée. Un autre arc, qui lui est surbaissé, est situé légèrement en retrait du premier par un espace ménagé, sans doute pour servir de passage à une herse défensive. Mais il pourrait s'agir aussi d'un assommoir. Tous ces éléments répondent aux mêmes besoins de défense. L'implantation de corbeaux qui s'avancent sur le chemin peut surprendre. Celle-ci a dû se faire plus tardivement pour changer le système de fermeture à une époque où les besoins de défense étaient moindres. On observe aussi des traces de gonds. Le chemin de mauvais pas, qui part devant la porte est très abrité. Au XIXe siècle, deux foires s'y tenaient dans l'année, une pour la Saint-Urbain le 23 mai et l'autre à la Saint-Clément le 23 novembre. Il a été fermé au public en 2016 pour des raisons de sécurité. Passez sous le porche. Avancez-vous sur la calade et retournez-vous. Au-dessus de cette porte, on peut voir les restes d'une petite pièce où vivait le portier avec son épouse. Au XVIIIe siècle, celui-ci se nommait Monsieur Buffet. À sa mort, son épouse réussit à obtenir du conseil municipal la charge de l'ouverture et de la fermeture. C'était une fonction très convoitée, car un peu rémunérée. Aussi, par moquerie, les habitants peu habitués à ce qu'une femme tienne ce rôle l'appelaient la buffette. La Porte Neuve est la première consolidation choisie par l'association Allan, Pierres et Mémoires en 1988, car on la voit du bas et c'est un symbole. On entre par une porte. Si vous souhaitez connaître l'évolution de l'urbanisme de ce village, écoutez. Sinon, dirigez-vous vers le poste 4. C'est donc un village que vous allez visiter, et non pas un château. Les origines de son nom ne sont pas précises. Cependant, elle pourrait être celte, qui signifie butte, ou bien il porterait le nom d'un peuple d'envahisseurs venus du nord, les Alains. À la lecture des murs, vous allez retrouver tous les éléments de fonctionnement d'un village. Il a été définitivement abandonné, non pas par manque d'eau, mais pour des raisons de développement économique. À Viviers, on construisit un pont en 1889, dit le pont en fil de fer, et lors de l'extension de la culture du mûrier en 1850. Son urbanisme est évolutif, s'adaptant à l'histoire économique, militaire ou humaine selon les siècles. Suivez le plan. En 1135, la famille des Adhémar, seigneurs de Montélimar, crée un castrum, château féodal, tout en haut de la colline, à l'opposé de votre situation actuelle. À partir de là, le village d'Allan s'organisera au fil des siècles, en s'étendant à plusieurs reprises selon les besoins de la population. Chaque extension étant protégée par des courtines ou remparts. Un seigneur est obligé de protéger ses vassaux. Cette extension a un effet poupée russe. Puis, au XVIIIe siècle, une nouvelle agglomération se développera au lieu-dit Labégude, où les paysans faisaient boire leurs troupeaux qui paissaient dans la plaine. Beigre, en patois, signifie « boire ». Dès la moitié du XIXe siècle commença l'hémorragie. Le village déménagea entièrement, contrairement à d'autres villages perchés qui dégoulinèrent sur la pente. Poursuivez votre découverte en vous dirigeant vers le poste 4.